Une collègue nous a exposé récemment quelques annonces matrimoniales des années 70. Et il semble qu'être psychanalysé était un critère qui pesait et valait la peine d'être mentionné. Chercher un homme ou une femme stable, sérieux et psychanalysé était d'usage. Quelques 50 ans plus tard, nous lisons que l'Institut IFOP a réalisé une enquête pour le site de rencontre où 70% des Français souhaitent faire leur vie avec un homme ou une femme déconstruit. Faire le chemin de la déconstruction, c'est se questionner pour mieux s'émanciper de certains stéréotypes sociétaux, en particulier ceux associés au genre. J'ai cité un peu le sondage. Le langage de cette annonce de rencontre est un indicateur intéressant. Nous sommes tous face à l'embarras du non-rapport et de l'incalculable, et la culture nous offre alors quelques signifiants pour tenter de masquer ce non-rapport ou, pour les dire positivement, de nous offrir une suppléance, et chaque époque le fait dans son style. Je ne pense pas qu'une psychanalyse à la mode, telle que cela a été le cas dans le milieu intellectuel des années 70 ou 80, est une gage d'un rapport juste à l'analyse. Cela pouvait même être une excellente manière de résister à l'analyse, mais ce déplacement dans le discours courant de l'analyse à la déconstruction devrait nous donner à penser. De quoi ce déplacement est-il le symptôme? C'est une vraie question de savoir comment ce déplacement nous dit quelque chose sur la forme que prend le malaise dans la culture. Peut-être que ce qui a été pendant des siècles saisi comme le réel, à savoir le corps ou la différence sexuelle, est désormais, avec les avancées de la science, apparaît comme une construction sociale, soit une pure jeu de symbolique. Le réel des coups qui a perdu son terrain va alors se réfugier ailleurs, ou insister, comme a dit Gisèle, probablement dans les questions du climat. Ce déplacement est aussi peut-être les marques que la castration aujourd'hui est plus facilement identifiée comme la castration de l'autre social. Quoique, cette idée, quand il est débranché de la pulsionnalité du corps, risque de se tourner à une logique des revendications. Mais pour moi, ce déplacement dans le discours social est aussi un indicateur qui ouvre la question d'une nécessité d'un dialogue ou d'explication entre psychanalyse et ce que l'on nomme le post-structuraliste, avec Foucault, Deleuze, Derrida, qui sont le père fondateur de cette posture épistémologique. C'est donc surtout ces parties-là que je propose de développer ici. Mon intervention est moins la communication d'un savoir qu'une communication de mon propre questionnement et cheminement. Il ne s'agit donc pas d'avancer des énoncés de nature absolue, style Freud, Lacan, etc. Il s'agit plutôt de parler de mon Freud, de mon Lacan, soit la manière dont j'ai pu les lire à travers l'enseignement que j'ai pu suivre, les rencontres que j'ai pu faire, l'époque dans laquelle je vis et la manière dont cette époque-là a traité les textes de Lacan. Donc ce sont toujours des éléments qui conditionnent nos rapports à ces textes consistants et classiques. Ce que je pourrais en dire donc ne représente seulement une facette et pas un ensemble. Les Lacan que j'ai pu connaître dans ma formation nodale étaient un Lacan structuraliste. Certes, ce n'est pas le seul Lacan, mais c'est lui qui a laissé une empreinte durable. Un Lacan qui a réveillé les textes freudiens grâce au structuralisme sussurien et lévi-straussien de son époque. Il nous propose alors une relecture de l'inconscient freudien, une réformulation de l'Œdipe, de la fonction paternelle, une théorie de la psychose, etc. Et les indications de ces Lacan nous donnent restent encore aujourd'hui une clé inestimable pour la clinique. Et c'est vrai que quand la clinique fait résonner certaines de ces indications, les débats post-structuralistes, avec son lot de critiques, peut sembler parfois pâle et lointain. Mais le travail sur ces textes, les textes de post-structuralistes, notamment Deleuze, Fekeux, Foucault, et la critique qu'ils font de la psychanalyse, ont créé pour moi une malaise et une nécessité de travail. Je me demande même si ce que l'on a l'habitude de nommer les dernières Lacan n'est pas l'effet d'un mouvement induit par ces mêmes post-structuralistes des fins des années 60. J'aimerais ici d'abord capitonner la critique post-structuraliste envers la psychanalyse de ces Lacan structuralistes autour de 5 points pour montrer en quoi elle vient nous interpeller en questionnant l'édifice analytique dans sa version structuraliste. Autrement dit, j'essaie de comprendre au nom de quoi on a vu ces glissements de l'analyse à la déconstruction. La première critique est celle d'un Œdipe métaphysique, elle vient particulièrement de Deleuze, qui critique la métaphysique de la psychanalyse. Pour lui, son objectif sera de s'engager dans une révolution matérialiste, dit-il, comme un projet philosophique, qui a comme objectif de se défaire de l'élément transcendant. Soit, pour aller vite, ça va aller du côté du père. Il sera suivi par toute la pensée post-structuraliste et les divers studies qu'on connaît aujourd'hui. Deleuze va appeler ça renverser le platonisme, c'est-à-dire se défaire de l'opérateur transcendant, l'un qui est posé comme lieu d'origine de toute chose ou comme lieu de mesure. Autrement dit, le projet de Deleuze, c'est de penser sans origine, sans centre, sans élément organisateur et normatif. Et c'est sur ce schéma-là qu'il rencontre la psychanalyse avec l'Œdipe et la fonction du père, qu'il va donc critiquer. Pour sa part, il souhaite penser le psychique de manière nomade, productive, sans un organisateur, sans le père comme clé de voûte, centralisant, transcendant, qui, dira-t-il, écrase et colonialise l'ensemble. Le deuxième point de critique porte sur l'aspect religieux de l'Œdipe. Il y a en effet dans la conception structuraliste du père une dimension religieuse. L'altérité radicale d'un Dieu extérieur au monde transcendant qui organise depuis son altérité se trouve à être logifiée par le structuralisme. De l'or, c'est le signifiant père qui serait un sursignifiant, un élément extérieur qui organise l'ensemble du langage et rend possible un lien social depuis sa position de moins un. Lacan, comme nous le savons, identifie clairement ce signifiant dans la culture avec la fonction religieuse de Dieu. Notons cependant, pour nuancer, être juste avec Lacan, qui cherche à éviter d'introduire de la métaphysique des filiations grecques, en se référant plutôt non pas au dieu de philosophe, mais non pas à un dieu concept métaphysique, mais à un dieu judéo-chrétien, un dieu donc des paroles et des désirs, ce qui change un peu les choses. Nous savons que Lacan, à partir de l'envers, se met à critiquer l'aspect religieux de l'Œdipe freudien. Mais je suis allé jusqu'au me demander s'il ne s'agit pas d'une critique de son propre Œdipe structuraliste qu'il a extrait des textes freudiens de manière rigoureuse et convaincante. D'une autre manière encore, Deleuze critique l'aspect religieux de la psychanalyse mis en relief avec le structuralisme. Je vous lis Deleuze, de manière simple, j'essaie. Les trois erreurs sur les désirs s'appellent le manque, la loi et les signifiants. C'est une seule et même erreur, idéalisme qui forme une pieuse conception de l'inconscient. Et là, il s'adresse à Lacan et il dit « Et l'on a beau d'interpréter ces notions dans le terme d'une combinatoire qui fait du manque une place vide et non pas une privation, de la loi une règle de jeu et non pas un commandement, du signifiant un distributeur et non plus un sens, on ne peut pas les empêcher de traîner derrière elles leur cortège théologique. L'interprétation structurale, c'est toujours Deleuze qui parle, récuse toute croyance, s'élève au-dessus des images, ne retient du père et de la mère que des fonctions, définit l'interdit et la transgression comme des opérateurs de structure. Mais quel eau, dit-il, lavera ces concepts de leur arrière-plan, leur arrière-monde, la religiosité. Je ferme la citation. Derrida, de son côté, et dans un autre registre, renvoie Lacan à son logocentrisme et se distingue de la psychanalyse en critiquant une logique, voire un désir de l'origine, lui aussi des tonalités filiatives et divines. Troisième critique, c'est l'aspect ségrégatif de l'Édipe. Autrement dit, la critique de la logique binaire. Deleuze soutient que l'organisation édipienne impose un idéal d'un certain usage limitatif ou exclusif. Il y a une logique ségrégative de l'Édipe qui introduit un usage limitatif négatif de la synthèse disjonctive, dit-il. C'est l'arène binaire de ou bien qui va avec la fonction différenciante de la prohibition de l'inceste. On est enfant ou parent, dit Deleuze, homme ou femme, mort ou vivant, et la psychanalyse, il dit, pense dans la continuité de cette logique les névroses dites familiales. Par exemple, la phobie ne peut plus savoir, je cite Deleuze toujours, la phobie ne peut plus savoir s'il est parent ou enfant, l'obsédé s'il est mort ou vivant, l'hystérique s'il est homme ou femme. Voici donc dans les années 70 les débuts d'une critique de la logique binaire qui serait véhiculée, disent-ils, par la psychanalyse. Alors que, et là c'est le projet deleuzien, de promouvoir la logique schizophrène, qui nous donne, dira Deleuze, une leçon extra-édipien et révèle un usage imminent, ça c'est Deleuze qui parle, qui ne serait plus exclusive ni limitative, mais pleinement affirmative et inclusive. Autrement dit, là où la logique exclusive de l'Édipe est de l'ordre ou bien, Deleuze cherche à maintenir les opposés en affirmant et en positivant la distance qui les unit. Autrement dit, il promet une certaine logique qu'il appelle transpositionnelle. Donc les trans, on sait ce que ça donne. Cette critique de la binarité est aussi présente de manière tout à fait différente chez Derrida, qui critique la logique de coupe d'opposés si importante dans la pensée structuraliste. Hein, signifiant-signifié, nature-culture, homme-femme, Derrida critique ce qu'il appelle la structure conflictuelle subordonnante de l'opposition. Il explique, je cite Derrida, « Dans une opposition philosophique classique, nous n'avons pas affaire à la coexistence pacifiante d'un vis-à-vis, mais à une hiérarchie violente. Hein, » Il critique l'idée d'une hiérarchie entre l'opposition. « Un de deux termes commande l'autre, occupe l'auteur, comme par exemple le primat du signifiant sur le signifié, et il propose donc de déconstruire l'opposition avec un élément, sortir de ces logiques binaires, avec un élément qu'il appelle la différence avec A. Bon, évidemment, on ne va pas rentrer dans cette affaire. Le quatrième critique, c'est l'aspect normatif de l'Édipe et de la psychanalyse. En effet, quand on pense une chose qu'en référence à un élément central, ça conduit à une pensée normative, car une chose est pensée toujours au lieu du centre et se mesure dans l'écart qu'il maintient ou la distance qu'il maintient avec ce lieu de centre. L'Édipe, donc, dans ces cas, devient un étalon. Et l'Édipe, nous dit Deleuze, est là soit pour, je cite, mesurer à cette croix-là, soit pour constater que nous n'y sommes pas mesurables, c'est-à-dire on est renvoyé à la psychose. Dans le même registre, Deleuze critique l'idée que le pré-édipien ne peut pas être pensé en soi, dans son polymorphisme radical, mais il a été, dit-il, toujours référé à l'Édipe dans un deuxième temps qui venait les normaliser. Les objets partiels, qui ont été très bien écrits par Mélanie Klein, sont pour Deleuze de véritables purs objets, pures différences, mais il regrette que Klein reste freudien parce qu'elle ne se débarrasse pas de l'idée que les objets partiels, schizoparanoïdes, là je cite Deleuze, renvoient toujours à un tout, soit original ou, dans une phase primitive, soit à venir dans une position dépressive. Donc Klein, pour Deleuze, ne peut penser les objets qu'en référence à la personne globale. Donc, autrement dit, elle va édipianiser ce que Deleuze, au contraire, va chercher à penser sans le filet de l'Édipe. Toute cette multiplicité des objets partiels, dira Deleuze, connaît, je cite, soit une intégration évolutive par Klein, dans une position dépressive, soit, là il se réfère à Lacan, une intégration structurale vers la position d'insignifiant despotique sous les rênes du phallus. Donc voilà, c'est la critique édite. L'Édipe, pour Deleuze, a cette fonction d'invariant qui vient donc, en s'appliquant, écraser, je cite encore, la multiplicité de la machine désirante, où toute la chaîne de l'inconscient sont linéarisées, suspendues à un signifiant despotique. La dernière critique, la cinquième, est celle de l'historisation. Elle s'adresse à une certaine psychanalyse, à son non-historisation. Bon, il est difficile d'accuser Lacan d'une non-historisation, mais cela rencontre une pente structuraliste lacanienne avec la dimension du symbolique dans son autonomie. Un grand autre extérieur au sujet, un déjà-là, qui le détermine comme un héritage anhistorique venant depuis lauréat du temps. Je vous lis Lacan en séminaire 2, où justement il me remarque très bien les dangers de la religiosité de la dimension symbolique. Lévi-Strauss, là je cite Lacan, est en train de reculer devant la bipartition très tranchante qui fait entre la nature et les symboles, et dont il sent bien pourtant la valeur créative. Car c'est une méthode qui permet de distinguer entre les registres, et du coup entre les ordres de fait. Il oscille pour une raison qui peut vous paraître surprenante, mais qui est tout à fait avouée chez lui. Il craint que sous la forme de l'autonomie du registre symbolique, ne réapparaisse, masquée, une transcendance pour laquelle, dans ses affinités, dans sa sensibilité personnelle, il n'éprouve que crainte et aversion. En d'autres termes, là c'est toujours Lacan, il craint, Lévi-Strauss, qu'après que nous avons fait sortir Dieu par une porte, nous ne le ferons entrer par l'autre. Il ne veut pas que le symbole, et même sous la forme extraordinairement épurée sur laquelle il note la présence, ne soit qu'une représentation de Dieu sous un masque. Voilà ce qui est à l'origine de l'oscillation qui manifeste quand il a mis en cause la séparation méthodique du plan de symbolique d'avec les plans naturels. Je ferme la citation. Historiciser ces symboliques donc, est un mouvement fort qui a beaucoup marqué l'œuvre de Foucault, qui a effectivement une puissance sécularisante du symbolique. La critique de Foucault contre le structuralisme touche précisément ces points d'historicité et s'adresse, entre autres, à Lacan. Dans les débats entre une logique structuraliste et une pensée de l'événement, Foucault dit, et je cite, « Je ne vois qui peut être plus anti-structuraliste que moi. » Et pour penser l'événement, Foucault soutient, je cite là Foucault, un refus des analyses qui se réfèrent au champ symbolique et au domaine des structures signifiantes. Et plutôt les recours aux analyses qu'on fait en termes de généalogie et des rapports de force. Donc il soutient plutôt un développement stratégique et tactique. Je crois, dit Foucault, que ce à quoi on doit se référer, ce n'est pas un grand modèle de la langue et des signes, mais de la guerre et de la bataille. L'historicité que nous importe nous détermine et belliqueuse, mais elle n'est pas langagière. Autrement dit, aux structures langagières, Foucault oppose une logique dynamique pour saisir un événement dans son hystérocité. Il y a effectivement une pente immense de la pensée de Freud, qui est une pensée de processus, qui se voit mis en arrière-plan avec la logification structuraliste. Je prends comme exemple la dynamique qui travaille le mythe freudien de Totem et Tabou. On gagne beaucoup à logifier les mythes, en nous proposant une lecture structuraliste. Cette logification du mythe est un effet précieux parce qu'elle permet de les clarifier, elle permet de désencombrer de la dimension imaginaire et rend possible d'innombrables lectures singulières et subjectives. Mais logifier un mythe, n'est-ce pas aussi une manière de la désincarner? Qu'en est-il des signifiants même qu'il articule, de la relation complexe que ces signifiants entretiennent entre eux, de la jouissance du désir qu'elle véhicule, de la temporalité que toute historicité articule, bref, d'une pensée des processus. Je pense que les mythes débordent les structures et sa réduction totale dans une structure implique une perte. Je récapitule très rapidement donc les critiques. Hein, c'était à l'égard du structuralisme, c'était une critique de la transcendance religieuse, de l'anhistoricité, de la normativité, de son organisation ségrégative et le binarisme structuraliste qui confirme. Voilà c'est à quoi j'étais confronté quand j'ai lu ces textes. Et voilà. La manière de déjouer ces critiques sont évidemment multiples et variées. Les Lacan de la pluralisation de nom du père, les Lacan de la sexuation, les symptômes viennent sûrement changer considérablement la donne. On lit aussi des efforts très intéressants de certains collègues, peut-être aux réactions post-structuralistes ou peut-être pas, d'épurer la psychanalyse de ses traces religieuses, des pères et de l'Édipe. D'autres encore, dans une démarche intéressante, proposent de Foucauldianiser la psychanalyse. D'autres encore, trois points, etc. Je ne vais pas rentrer dans le... Pour ma part, ce malaise a conduit à une rencontre renouvelée avec les textes même de Freud. Ces textes freudiens, il est pré-structuraliste et il m'a semblé être finalement bien plus plastique et multiple ou finalement bien plus subversif dans son abord de ces questions. Et si les textes de Freud seraient à lire aujourd'hui avec les problématiques et l'épistémologie de notre époque, serait-il à ces rendez-vous? Parce qu'il est extraterritorial à la problématique structurale, qu'il me semble plus audacieux qu'à l'envers post-structuraliste. Autrement dit, il me semble qu'il constitue une alternative entre un conservatisme structuraliste et un progressisme post-structuraliste. Je vais rappeler rapidement qu'est-ce que j'ai pu trouver chez Freud qui m'a permis d'essayer de bricoler quelque chose face à ces questions. Il me semble important de rappeler très basiquement que Freud est amené à expliquer son choix de mot analyse, en psychanalyse, c'est un mot qui signifie décomposition, et se retrouve en analogie avec le travail du chimiste. Il assume cette analogie fondée sur le fait que, je cite Freud, les symptômes et la vie psychique sont d'une nature hautement composée. La psychanalyste et les chimistes ont donc tous les deux affaire à des objets composés, complexes, dont il est question de désagréger, décomposer la combinaison. Freud forge ici une méthode de fragmentation corrélative de sa conception de son objet. Les symptômes, la vie psychique, sont-ils de nature composée et complexe? Et la méthode analytique consiste à les décomposer en opérant sur ce qui a été noué ensemble, tissé ensemble, autrement dit, des objets qui sont étymologiquement complexes, complexe étymologiquement, c'est tisser ensemble. C'est ça le mot complexe. Et notons que le mot analyse apparaît pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation chez Homère avec Pénélope qui tisse et détisse, analyse, hein, détisse. L'objet freudien donc n'est pas un objet déjà là. Ce n'est pas un objet donné comme un point de départ. C'est plutôt un objet complexe, composé, qui est le fruit d'un processus de nouage complexe. Freud donc est un post-structuraliste avant la lettre et son acte de déconstruction s'appelle la décomposition, soit l'analyse. Pas de déjà-là, mais un travail d'historisation très précise par le biais de la logique de processus. Comment Freud pense l'architecture de ces objets ? S'agit-il d'un effet, d'une structure ou d'une organisation structuraliste ? Est-ce qu'il s'agit d'une logique post-structuraliste rhizomatique ? Est-ce qu'il s'agit d'une logique fragmentaire ? Enfin, quelle est l'architecture des objets freudiens ? À relire la manière dont Freud pense l'organisation, et la porte d'entrée pour moi, c'était comme pour Gisèle, les rêves. Les rêves s'organisent à partir d'une multiplicité de pensées latentes, mais aussi la sexualité, à partir d'une multiplicité de pulsions partielles, mais aussi les symptômes, mais aussi les liens sociaux, comme on voit dans l'homoïse. Et il m'a semblé que Freud pense ces objets comme des objets complexes, tissus, où une multiplicité des éléments interagissent ensemble pour s'organiser dans une structure. Ce tissage trouve évidemment sa cause dans le non-rapport. C'est parce qu'il y a du non-rapport que ça se met en travail. Mais quand on regarde de près cette organisation, ces formations chez Freud, on voit bien que là, il ne s'agit pas d'une structure normative, mais plutôt un système complexe, où l'objet se forge de manière imprédictible de l'interaction des éléments hétérogènes. Ce que, je dis ça au passage, ouvre une porte à un dialogue avec les sciences de la complexité. Je ne rends pas ici une démonstration de ces objets complexes chez Freud, mais il m'importe de noter qu'il y a chez Freud une logique de l'auto-organisation où l'élément organisateur n'est pas tant un élément extérieur transcendant, mais plutôt un élément interne qui émerge des travaux dans le travail du rêve, dans le travail psychique et dans le travail du tissage. Pour conclure, je vais simplement faire une petite citation de Freud qui me semble dire quelque chose sur son positionnement face à la question du binaire et la possibilité intéressante de s'en défaire. J'ai lu Freud dans l'Homoïse. Il suffit à notre besoin, à vrai dire impérieux de causalité, que tout événement est une cause démontrable. Mais dans la réalité extérieure à nous, ça n'existe guère. Chaque événement semble plutôt surdéterminé. Il se manifeste comme l'effet de plusieurs causes convergentes. Là, il nous dit, nous sommes effrayés par la complexité inextricable des faits et notre recherche prend parti pour une connexion contre une autre et dresse alors des oppositions qui n'existaient pas, qui ne s'en tenait que de la dislocation des relations plus vastes. Autrement dit, les oppositions, nous dit Freud, sont des constructions logiques qui viennent masquer une complexité, ou ce que Freud dit, un tissu des causes qui convergent. Autrement dit, si je lis bien Freud, le contraire de l'opposition binaire n'est pas le multiple et la déconstruction de toutes les catégories, mais une pensée du complexe. Ainsi, par exemple, homme et femme et moi, un couple d'opposés binaires, que deux possibilités de nuages symptomatiques. Peut-on alors envisager un après-Lacan, avec Lacan, qui serait un retour à Freud ? Voilà, j'arrête là.